Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Moodstep, un podcast égocentrique où je construis mon utopie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur puisque c'est au cœur de mon activité professionnelle, c'est l'intelligence collective et comment l'intelligence collective peut nous aider à construire une démocratie participative. Et parce que je suis incapable de construire mon utopie toute seule, et bien comme à mon habitude, je vais aller piocher dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre s'appelle Fabrice, il est designer, il est facilitateur, il est spécialisé dans la transformation des organisations, il a créé Le Comptoir et il est basé à Lyon. Je mettrai ses coordonnées, ou en tout cas un lien vers son site internet, dans la description de ce podcast. Retrouvons-le tout de suite pour nous plonger dans ce sujet primordial de l'intelligence collective et de la démocratie participative. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice, tu es supposé venir à ma rescousse. J'ai décidé de créer mon utopie. Et il faut bien dire, pour l'instant, c'est le bazar. Mais depuis que j'ai commencé ce projet, à cause de mon parcours dans l'intelligence collective, je me suis dit, il est évident qu'il faut aller explorer la démocratie participative et notamment sur une base d'intelligence collective. Et je crois que tu es la personne qui va pouvoir m'aider parce que toi, tu touches à tous ces sujets.
Oui, c'est ça. Ça fait un moment que je travaille autour des sujets de l'intelligence collective et ça fait un moment aussi que j'essaye de réfléchir avec d'autres personnes à comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer toute cette démarche sur des sujets qui sont politiques, avec un grand P.
Oui, parce qu'en fait, dans mes rêves, je me dis « Ah, l'intelligence collective, les gens qui peuvent enfin s'exprimer, c'est formidable. Mais » Mais en fin de compte, juste en y réfléchissant 5 minutes, je me dis « Mais c'est pas si facile que ça. » Déjà, quelles sont les conditions pour que l'intelligence collective puisse vraiment être un outil de la démocratie? Quelle forme ça va prendre? Quel sujet on va traiter à l'intérieur de ce cadre? Et puis surtout, il y a aussi la question de notre capacité individuelle à être sollicité sur plein de sujets. Donc, quel sujet amener aux citoyens, comment, pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Donc, je ne sais pas trop par quel bout commencer. Donc, quelles sont peut-être les conditions ou à quoi ça va ressembler, à quoi ça pourrait ressembler pour que ça fonctionne ?
Alors, selon moi, et puis les autres personnes avec lesquelles je travaille, donc pour donner un peu de contexte, c'est justement une volonté d'échanger sur ces sujets avec des personnes qui sont dans des bords différents. Donc, moi, je suis designer, facilitateur, je travaille sur ce gros sujet d'intelligence collective. Et à côté de ça, il y a des ponts qui se font avec des personnes qui sont sur des profils plus anthropologues, ethnologues, des chercheurs, d'autres profils de designers, des personnes qui bossent plus dans la partie technique, dans le numérique. Et globalement, en fait, ce qui est super nourrissant, c'est qu'il y a, par ces ponts beaucoup d'analogies en fait qui peuvent se trouver pour justement arriver à cerner qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et comment est-ce que ça fonctionne en vrai. Et l'un des ponts qui est intéressant pour peut-être commencer cette conversation, c'est le pont qui se fait aussi avec la biologie, avec tous les gens qui s'inspirent de la nature pour leurs travaux. Donc
le biomimétisme.
Voilà, les démarches de biomimétisme. Et le postulat, c'est de se dire, bon, l'être humain, on peut s'amuser à essayer d'inventer des millions de nouveaux modèles, innover, disrupter, comme on utilise tout le temps ces mots. Au final, il y a quand même une entreprise de 4 milliards d'années qui fait de la R&D et qui teste des tonnes de modèles depuis tout ce temps. Et potentiellement, si jamais on n'a pas encore trop détruit ce qu'elle avait à nous partager dans sa grande bibliothèque ouverte, eh ben, il reste des choses à en apprendre. Et du coup, dans cette nature, il y a les fourmis, par exemple. Ça fait des millions d'années qu'elles font de la R&D aussi en termes de politique, en termes de gouvernance, en termes de collaboration. Il y a les abeilles, il y a les arbres aussi. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, eux, pour échanger de la donnée, pour arriver à faire en sorte de créer cette symbiose avec les champignons, les animaux et tout le reste. Et bref, ça peut paraître un petit peu éloigné ou perché des fois de regarder dans ces sujets-là pour inspirer quelque chose qui peut être de l'ordre de la politique avec un petit p. Mais au final, c'est par l'analogie que les choses se construisent et que l'inspiration vient. Donc, en tissant des ponts avec des gens qui sont dans cette discipline-là, on a pu pousser pas mal de réflexions autour de café ou quoi que ce soit. Et en gros, l'idée, c'est il y a toujours une dimension locale, voire une dimension extra-locale. Donc, par exemple, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une région, et ainsi de suite. Et il y a une dimension qui est globale, c'est une forme de conscience aussi, c'est que même si je suis ici dans mon petit immeuble, eh ben, au fond de moi, je peux avoir une considération globale de la France ou de la planète et me poser des questions par rapport à ça, essayer de réfléchir à comment est-ce que le monde ou la France pourrait être mieux. Après, il y a aussi une dimension qui est un peu plus subtile, mais qui est la dimension commune. Et la dimension commune, en gros, c'est de pouvoir accéder à toutes les réflexions qui peuvent se passer en local à plein d'endroits différents. Par exemple, moi je suis à Lyon, je peux réfléchir à des tonnes de choses qui se passent dans mon quartier ou dans ma ville de Lyon. Et en même temps, je peux potentiellement, grâce à des réseaux numériques ou en me déplaçant moi ailleurs, aller récupérer des réflexions qui se passent dans d'autres zones. Et ça, c'est encore une dimension qui est complètement différente par rapport à la dimension globale. Et en fait, la problématique.
Juste pour donc là en fait la dimension commune c'est une sorte de pollinisation par les autres dimensions locales. Et qu'est-ce que tu entends par la dimension globale alors?
La dimension globale, en fait, c'est comme une moyenne, en fait. C'est d'un ordre global, on va dire, tiens, il se passe ça.
C'est les grands enjeux, par
Et par
exemple,
exemple.
des dimensions locales, on peut prendre des grands enjeux qu'on retrouve
Voilà,
partout.
c'est ça. En fait, les grands enjeux, c'est une sorte de normalisation de choses qui se passent sur des dimensions locales. Par exemple, on va dire, ben voilà, en Afrique, il y a les problèmes de pauvreté ou il y a les problèmes de maladie et de sida. OK. Globalement, dans la tête des gens, eh ben, toute l'Afrique supporte ces problématiques-là. Et dans ce cas-là, voilà, c'est l'Afrique, c'est comme ça. Et le problème, c'est que cette dimension globale, elle est intéressante, mais si on n'y associe pas justement un niveau commun en récupérant de l'information qui est plus localisée, eh ben on perd en fait en diversité d'informations sur un sujet. Et le risque d'une dimension globale, c'est que ça aplatit tout
Ouais.
et que du coup, ça doit aligner tout le monde sur des choses qui sont annoncées comme étant factuelles et en fait, ça marche pas. Donc, par exemple, si on en revient sur notre sujet, on va demander à des personnes qui sont à Bourgoin-Jallieu de réfléchir sur un sujet global qui est la démarche citoyenne, nanana, ou l'économie, ou des choses comme ça. C'est très difficile pour quelqu'un qui est potentiellement dans sa vie très localisée, justement, de se poser autour d'une table, d'avoir un débat sur ces sujets-là et de réfléchir de manière globale, alors que lui, toute la journée, il est sur une dimension qui est très locale. C'est pour ça que la démarche qui serait une démarche design et une démarche, comment dire, en intelligence collective aussi, ça serait. On part du principe que tout se fait au niveau de l'action, de notre quotidien, tout se fait d'un point de vue local. Et donc forcément, nos préoccupations, c'est de nous dire, bah, en fait, j'ai envie de vivre dans un quartier qui est super cool, où il y a tout qui va bien, où c'est fluide, où mes enfants peuvent être bien aussi, où mes voisins sont bien aussi. Donc si jamais je vais rejoindre un atelier de co-construction ou de remontée de problématiques, si je réponds à des interviews ou quoi que ce soit. Bah forcément, je vais être expert de la localité, donc je vais pouvoir donner plein d'informations là-dessus et dire vraiment ce que j'attends et ce que j'ai envie pour la partie locale. Et toutes ces informations-là qui sont récupérées sur plein de localités différentes, potentiellement par des ateliers, des interviews ou des démarches plus de sciences sociales comme l'anthropologie, quoi que ce soit, ça, c'est des informations qu'on peut faire remonter dans un espèce de pot commun qui est justement sur cette dimension entre le local et le global. Et toute cette information-là, elle peut être traitée par plein d'autres personnes aussi, toujours pareil, sous format de travail collaboratif pour justement favoriser l'intelligence collective. Et ça va permettre de faire remonter une vraie conscience globale de ce qui se passe, mais avec à chaque fois le fil d'Ariane qui va pouvoir dire, oui, en effet, il y a un problème d'emploi. Mais c'est très localisé sur telle zone et telle zone par rapport à ça, 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 et ça, 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 et ça, ça, ça. Et du coup, on est beaucoup plus précis en fait en termes d'informations. Et à n'importe quel moment, si une personne dit oui, mais moi, ça, c'est pas mon problème ou quoi que ce soit, on pourra lui dire oui, en effet, toi, c'est pas ton problème parce que dans ta région, ça va bien, mais par contre, regarde, dans tel endroit, ça. Et ce qui est super intéressant avec ce fonctionnement beaucoup plus systémique, qui paraît beaucoup plus complexe et qui l'est certainement, mais au final, vu qu'il y a. Cette démarche de collaboration et d'intelligence collective, ça permet de le traiter quand même. Ça permet de dire à des personnes, OK, donc là, toi, tu veux pas changer ta manière de faire pour ton truc à tel endroit. Ça se comprend parce que les autres autour de toi sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il va y avoir des externalités à faire comme vous faites. Ça va forcément se répercuter sur telle autre région ou sur tel autre secteur. Eux, du coup, ça va leur réduire leur qualité de ça. Et donc, du coup, toi, au quotidien, quand tu fais ça impacte comme ça sur ces personnes-là à tel endroit.
Hormis la démarche qui est coopérative, donc les ateliers, les interviews dont tu as parlé, aujourd'hui on a les mairies, c'est au niveau local, on a un gouvernement, on pourrait dire c'est un niveau global. Quelle différence?
Actuellement, la grosse différence, c'est qu'on a une manière de faire politique et institution qui est centralisée, c'est-à-dire que les mairies, les régions sont là pour collecter de l'information. Alors, pareil, les démarches et les manières de faire de la collecte des informations n'est pas forcément la plus pertinente. Parce qu'envoyer des questionnaires juste à certaines personnes et baser les analyses juste sur le fait que les gens ont répondu, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas d'informations des gens qui n'ont pas répondu, par exemple. Ou faire des sessions de débat purement à l'oral avec juste de la médiation classique, ça fait remonter aussi de l'information que des gens qui sont prêts à y aller, qui sont prêts à parler à l'oral. Donc déjà, tous les gens qui sont un peu introvertis, ben, on n'entendra pas parler. Ou sinon, les gens introvertis pourront donner de l'information sur des questionnaires en ligne ou ces choses-là, qui souvent, en plus de ça, sont pas forcément super bien formatés et donc la pertinence des informations n'est pas non plus géniale.
Donc on peut
Bref.
parler justement de ces outils, parce qu'en plus en ce moment, bon, j'essaye dans ce podcast de pas trop aller sur l'information, mais il y a le grand débat national. En fait, qu'est-ce qui est important quand on fait de l'intelligence collective? Comment on va récolter et sous quelle forme l'information en local?
L'important, c'est d'avoir de la facilitation. Donc, ce que j'entends par facilitation, ça va être des personnes qui vont avoir cette posture de favoriser l'écoute, de favoriser les différents profils de gens qui vont être là lors d'un atelier, de favoriser des phases de collaboration, des phases de remontée d'informations. Et qui vont être là aussi garant d'avoir en sortie quelque chose de concret. Souvent, l'objectif pour des sujets un peu comme cela, c'est de pouvoir générer des priorités. Parce que souvent, tout le monde va vouloir défendre un petit peu ses propres problématiques. Mais ces problématiques-là sont souvent liées à d'autres problématiques sous-jacentes ou causes qui sont peut-être communes avec d'autres personnes. Donc c'est là où ça va être intéressant d'avoir une belle diversité de gens qui vont être autour d'une table, par exemple. C'est que par différentes étapes de collaboration, on va pouvoir faire remonter, chacun va pouvoir faire remonter son problème, mais en même temps, les uns les autres vont pouvoir se rendre compte que les sources de leurs problématiques sont peut-être les mêmes. Et du coup, ça va permettre de détecter des priorités. Et de ces priorités, en fait, on trouve des axes communs. Et de ces axes communs, on peut voir si on peut les connecter avec d'autres axes communs, d'autres ateliers dans d'autres régions. Et ça permet de générer un petit peu, je n'aurais pas le nom de dire, mais une sorte de map de tendance, de problématique ou de priorisation. Et de là, en fait, on peut potentiellement en écrire un programme politique.
Donc le rôle du facilitateur, il est clé. Il y aurait un processus qui serait le même pour tous les facilitateurs pour faire émerger ces grands points clés dans chaque localité.
La posture de facilitation est vraiment là pour arriver à favoriser donc l'intelligence collective. La manière dont je définirais l'intelligence collective, c'est qu'arrive un moment où des humains autour d'une même table ne savent plus vraiment qui c'est qui a généré quoi comme idée ou qui a apporté quoi comme information. Parce qu'en fait, ils ont collaboré et du coup, ils sont rentrés dans un espèce de flow où les choses sont sorties d'elles-mêmes. et où en fait ils étaient sept comme sept neurones d'un même cerveau, et du coup les choses sont sorties. Et tout le travail du facilitateur, c'est d'arriver à générer ça. Et après, chaque facilitateur peut avoir ses propres outils, ses propres méthodes, ses propres manières de faire, peu importe. Le but du jeu, c'est d'arriver à ça parce que c'est une expression vraiment du groupe.
Il devient vraiment clé si tu as un mauvais facilitateur ou si alors toute ta localité en pâtit, quoi.
Si, en effet, si le facilitateur a une posture qui est décalée, qui serait plus une posture de leadership ou une posture de coaching raté, où c'est lui qui infuse un peu ses idées dans l'orientation d'un groupe ou quoi que ce soit, oui, en effet, ça biaise complètement ce qui peut en ressortir.
Est-ce qu'ils peuvent pas devenir des points de corruption, par exemple?
Ils peuvent devenir des points de corruption. Si, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que dans l'idée. Il y a quand même une possibilité de proposer des protocoles en fait de facilitation de cette posture que les gens peuvent tester ou du moins qui vont permettre aux gens qui ne prennent pas cette posture de savoir ce que c'est aussi. Je te donne un exemple tout bête. Vraiment, la posture de facilitateur, c'est une posture qui est un support à l'autonomie. Donc, dans tous les cas, le facilitateur reste neutre en termes d'information. Lui, il n'est pas là pour donner ses idées à l'intérieur du groupe. Et ça se remarque de plein de manières quand un facilitateur dévide ça. Et si jamais les gens sont au courant, parce que justement ce protocole est un document qui est partagé justement dans ce commun, l'information est disponible. Si même on rentre dans le protocole le fait que les démarches de facilitation, on les donne aux gens du groupe, eh ben ils sont directement au courant. Et si jamais ils se rendent compte que le facilitateur dévie, ou si jamais par exemple la session a été filmée ou documentée pour justement être archivée et rentrée dans toute la démarche commune. Si jamais à un moment donné, le facilitateur a commencé à inclure un peu son point de vue à lui et à infuser sur le groupe, c'est un signal d'alarme qui est à noter à tout le travail qui a été fait pour justement dire attention, là on a eu plein d'informations sur tel atelier, mais par contre, il y a des risques que ce soit biaisé. Un peu à la manière de ce qui peut se passer sur un Wikipédia, par exemple, tu vois. Un Wikipédia, ça peut être complètement biaisé et infusé par des gens qui veulent passer leurs idées dedans, de manière même très très légère. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des garde-fous de personnes qui vont déclarer, tiens, là, ça manque de source, ou tiens, là, ça manque de consistance.
Ce qui me fait venir aussi à... Là, on parle beaucoup d'informations, récolte d'informations, une espèce de cartographie de ce qui se passe en local, mais c'est l'information, c'est différent de la décision. C'est-à-dire
Oui.
que là, on parle d'atelier, d'interview, ok, ça fait remonter l'information. Où se place la décision, puisque tu parles de déjà, qui sont ces gens qui analysent toutes ces données? Qu'est-ce qui ressort comme analyse et qui va agir ou prendre des décisions sur ces analyses?
Alors écoute, je prendrai l'analogie du corps humain, comme ça au moins ça sera plus simple. Et puis vu qu'on trouve beaucoup d'informations dans l'analogie avec le vivant, ça pourra peut-être servir. Quand je prendrai la posture d'un naturopathe, par exemple, qui voudrait traiter le problème de quelqu'un. Donc cette personne va faire un diagnostic du corps de la personne. La personne va lui dire, bah, tiens, j'ai beaucoup mal au foie, j'ai mal à la vésicule, j'ai aussi mal au genou. Enfin voilà, un diagnostic global. Donc là, en fait, les signaux de douleur ou de problèmes de santé viennent de zones qui sont très localisées. Et en plus de ça, dans le corps humain, chacune de ces zones très localisées a un traitement particulier sur le corps, ce qui fait que ça fait remonter énormément d'informations aux naturopathes pour qu'ils disent, ben tiens, si vous avez mal au foie et à la vésicule, ça veut dire qu'il y a certainement ça et ça que vous ne faites pas correctement, et du coup, il faudrait que vous changiez votre alimentation là-dessus ou votre habitude sur ci ou sur ça. Qu'est-ce qui va faire le traitement de toutes ces informations? Ça va être fait en faisant une synthèse de tout ce qui est remonté comme information sur tout le corps. Ça va être fait avec la connaissance de la naturopathe, donc une forme d'expertise sur le corps humain, son fonctionnement et comment ça interagit avec le reste. Et après, il y a la personne qui va choisir, est-ce que je suis toutes ces informations-là? Ou est-ce que j'ai pas du tout envie de suivre ça, et même si on m'a dit que mon problème de foie, ça vient du fait que je bois beaucoup trop de bière tous les soirs, et ben je vais continuer quand même à boire des bières, et ben ça va continuer à s'aggraver, et après forcément ça va finir par dénaturer tout le corps dans sa globalité, et je vais déclencher des maladies plus profondes. Et ben là pour le tissu, le tissu du territoire et un tissu à l'échelle de la France par exemple. Pour moi, ça serait pareil. C'est-à-dire qu'on va récolter de l'information comme des points d'acupuncture un petit peu de partout sur le territoire. On va y passer par le filtre de personnes qui sont expertes sur les différents sujets. Donc, je rentre bien dans la logique d'expertise, pas une logique de sachants qui vont dire, tiens, il faut faire comme ça. Juste des personnes qui sont capables de traiter cette information et d'en faire une information plus raffinée, donc une connaissance,
Et des préconisations.
et qui vont pouvoir en faire exactement des préconisations. Toutes ces connaissances et ces préconisations ensuite sont entrecroisées et bien entendu elles sont liées parce que tout est lié, tout est systémique. Et ça donne une espèce de grosse conscience de tout ce qui se passe avec des gros points d'alerte, avec des priorisations de choses à faire, avec plein d'éléments et qui remontent potentiellement à un board qui va lui pas forcément être centralisé ou au-dessus ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de logique de hiérarchie, c'est plus un board en fait qui a un point de vue qui est beaucoup plus global. L'idée, c'est que ça remonte toutes ces informations de manière très claire, avec le lien vraiment dans tout le détail à ces personnes qui sont en vue très éloignée sur le board, et ils se disent, ah ouais, en effet, comme la naturopathe, là, il faudrait peut-être changer ça, ça, ça et ça.
J'ai pas l'impression qu'on parle de démocratie, là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de peut-être que dans le système actuel dans lequel on vit, en fin de compte, on ne récolterait pas bien l'information. Donc là, on récolterait plus d'informations de tous les citoyens, mais on reste dans, pour moi, hein, il y a les sachants. Et c'est-à-dire que c'est eux qui vont traiter la complexité de l'information récoltée, et c'est eux qui vont faire des préconisations. Et moi, en tant que citoyenne, n'ayant pas cette expertise, comment je peux décider ou comprendre si c'est juste ou pas? Sachant que y a toujours, on sait que dans les organisations humaines, il y a des luttes de pouvoir, il peut y avoir plein de choses qui font que cet expert, il faut qu'on ait, ou cet expert, ou je ne sais pas comment on l'appelle, mais faut que, et aussi ce board dont tu as parlé, il faut qu'on ait une confiance énorme. Donc il faudrait qu'il n'ait. Qui ne tirent pas de pouvoir de ce qu'ils font.
C'est pour ça que je remets au centre l'importance du commun, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en termes de traitement de toutes ces informations, la manière dont c'est traité, tout ça c'est également documenté et c'est disponible et accessible en open source et en toute transparence à toutes les personnes qui ont envie de mettre le nez dedans. Et au niveau de ce qui se passerait sur cette board un peu en hauteur pour pouvoir mieux voir la globalité. Et pareil, toutes les recommandations ne sont que des recommandations et pas des directives. Et pareil, cette board-là regroupe des personnes qui ont une tendance à regarder les choses un peu de manière éloignée, mais à chaque fois, ça n'est qu'une forme de connaissance aussi qui a rapporté sur le territoire local pour qu'eux, ils se disent, ah ok, donc là, eux, de ce qu'ils en ont vu par rapport à tous les traitements et tout, ça serait intéressant qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et là, en termes de gouvernance, en termes de décision, bah ça, c'est les experts locaux, donc les gens qui vivent sur le territoire et qui ont l'habitude, et puis au final, qui sont les intéressés locaux, qui vont pouvoir eh ben, prendre ou pas prendre. Et donc, s'ils prennent et qu'ils voient qu'en effet, ça a un lien de causalité qui fait que ça améliore leur truc à eux et que ça améliore ce qui est à côté, ben potentiellement, ils vont avoir tendance à suivre. Peut-être que non, ils vont pas le faire et dans ce cas-là, ils vont se rendre compte que ça marche moins bien. Enfin, toi, l'idée, c'est que c'est complexe parce que ça devient organique.
Donc c'est vraiment le local qui est décisionnaire, de ce que je comprends, avec les préconisations, en fin de compte, qui sont une mise en commun de toutes nos problématiques locales. Bam, on reçoit ces préconisations, on décide de le faire ou pas. Est-ce qu'on n'induit pas une compétition entre les localités, c'est-à-dire suivre les préconisations pour un bien commun? Est-ce que ça va être important pour les groupes locaux ou est-ce que bah, ça dépend après du système qu'il y a autour de ça, en effet, si c'est du communisme, du capitalisme, je prends les systèmes qui ont pu exister, mais je suppose que ça va dépendre comment, même quand on amène les sujets au niveau local, on sait que ça va pas taper sur les côtés égoïstes de l'être humain.
En fait, c'est là, après, on a aussi une dimension à explorer qui est assez précise, mais c'est toute la dimension plus philosophique, La dimension des peurs, pourquoi est-ce que l'être humain est égoïste sur, par exemple, la dimension économique, pourquoi est-ce qu'il a besoin de se créer une sécurité financière sur son compte en banque à lui tout seul, pourquoi est-ce qu'il a besoin de se créer un patrimoine immobilier à lui pour se sécuriser sur le long terme. Enfin, c'est vraiment des points de culture, en fait, qui sont eux aussi, je pense, à traiter et à pousser à la réflexion et à l'expérimentation. Je te donne un exemple tout bête. En tant qu'indépendant, je suis en micro-entreprise. Je me retrouve du coup à avoir un seuil maximum si je ne veux pas payer le double de charge, qui est autour de 36 000, je ne sais plus exactement combien c'est. Et je pourrais me dire que vu que j'arrive très souvent à ce plafond, je vais basculer sur un autre schéma d'entreprise. Et donc du coup, là, je vais pouvoir prendre plus d'argent, j'aurai plus de choses à faire, j'aurai plus de... Bref, je peux changer de format pour continuer à faire grossir mon truc. Il y a aussi une possibilité, et encore une fois, si on s'inspire un peu du fonctionnement de la nature, de se dire, mon plafond, c'est ce que j'ai besoin pour vivre. La sécurité, au lieu de me la créer en faisant une accumulation dans mon coffre à moi, je vais le faire par ruissellement. Donc, c'est-à-dire que dès le moment où je peux donner du travail à d'autres personnes, et ben, du coup, je leur donne. Le fait de leur donner du travail, ça va leur libérer du temps. Si ça leur libère du temps, du coup, ils vont eux aussi pouvoir faire des recherches ou trouver d'autres entrées de projet, qui fera qu'au bout d'un moment, pareil, par effet systémique et par effet de rebond, ça me reviendra d'une forme ou d'une autre. Et c'est plus difficile de faire confiance à ça plutôt qu'à un coffre sécurisé à la banque où il y a mes sous dessus. Mais par contre, c'est beaucoup plus cohérent en termes de système, parce que clairement, dans la nature, toute chose qui essaye d'accumuler dans son coin finit par crever ou s'isoler du système et par mourir, alors que toute chose qui favorise la distribution et la circulation finit par rentrer dans un système qui rentre en symbiose et qui crée une abondance. Et ça se trouve, c'est l'un des principes, par exemple, principaux de la permaculture, qui peut s'utiliser pour justement aussi ces démarches politiques, parce que toute la démarche de permaculture humaine est d'analogie qui se fait par rapport au système humain. Mais en permaculture, tout l'objectif du jardinier, c'est de créer une symbiose. Et dès le moment où la symbiose elle est en place, il doit juste aider à la maintenir. Et tant qu'il la maintient, ça génère une forme d'abondance. Et souvent, la plupart des gens qui montent des jardins permaculture disent que ça donne tellement qu'on n'arrive pas vraiment à gérer tout ce qu'on sort de terre. Ça n'a rien à voir avec une monoculture qui est faite justement juste pour extraire violemment, vendre et puis toujours en vouloir en sortir plus, alors qu'il n'y a pas de démarche de collaboration. Donc, si je peux encore utiliser une analogie, une personne qui va vouloir se sécuriser de manière égoïste financièrement va faire de la monoculture et donc du coup va finir par assécher sa propre terre et même la terre des autres autour, parce que la concurrence et la compétition, ça fatigue en vrai tout le monde. Et de l'autre côté, une personne qui va plus gérer son activité sous une forme de permaculture, de collaboration et chercher la prospérité avec les autres, va pouvoir rentrer dans une démarche qui est au final beaucoup plus naturelle. Et j'espère que dans un futur proche, dans ton monde idéal, on se dira, tiens, c'était du bon sens que de fonctionner comme ça. Qu'est-ce qu'on était bête de fonctionner sur d'autres modèles avant?
C'est là qu'on se rend compte que vraiment tout est lié, que il faudrait un changement culturel en fait pour que les gens réfléchissent comme ça. Aujourd'hui, on est tellement dans la peur de manquer, même quand on a des millions et des milliards, j'ai l'impression qu'il faut continuer à accumuler. Je sais pas d'où ça vient, hein. Mais donc j'ai la sensation que sans changement culturel et qui passe sûrement par une éducation aussi différente, et ben ce système, j'ai peur qu'il puisse. Il y a trop d'entrées, mais c'est un jugement là que je porte, mais
Ouais, bien sûr, bien sûr.
qui est trop d'entrées où ça puisse dégénérer dans un système égoïste en fait.
Et c'est pour ça qu'il y a encore l'importance de ce local et de ce commun. Local, pas forcément qu'en termes de territoire, comme on parlait juste avant, mais aussi une localité culturelle. Donc, exemple tout bête, par exemple, tous les deux, on est en train de parler de ces sujets-là. Donc, du coup, potentiellement, on pourrait arriver à être assez proches en se disant, OK, ben, on va essayer de fonctionner sous ce format de prospérité, de partage, comme la nature fonctionne, tout ça. Si jamais je vais dans un autre secteur culturel avec des gens qui sont complètement différents de moi, qui sont en plus de ça dans des difficultés beaucoup plus grandes parce qu'ils n'arrivent pas à se payer à manger ou à se loger ou quoi que ce soit, je pourrais leur raconter mes grosses histoires. Ils me diront, écoute mec, oui, tu peux te réfléchir à tout ça parce que toi, tout va bien, mais par contre, moi, là, je galère grave, donc en fait, ton truc, ça marche pas. Et ils auront complètement raison. Parce que du coup, dans ce milieu-là, qui est moins favorisé que le mien, eh ben, c'est plus la galère. Et je dirais, du coup, ce qui est important, c'est d'avoir cette logique de ruissellement, mais qui se fasse un peu comme un pavé dans la mare. Donc, par exemple, moi, je me dis, tiens, j'ai envie de croire à ça, à ce fonctionnement naturel, de prospérité et tout. Je ne vais pas en écrire des grands discours et essayer de dire à tout le monde qu'il faut fonctionner comme ça parce que c'est trop bien. Je vais plutôt me dire. Forcément, les gens qui sont assez proches de moi sont proches de ce modèle-là. Et du coup, si on arrive déjà à le mettre en place ensemble, ça crée un tissu de réseau qui est un petit peu plus large, avec une certaine manière de faire. Et puis, ces gens-là qui sont un peu plus éloignés sur mon tissu de réseau, peut-être que eux, quand ils vont commencer à être vraiment bien dans une situation aussi favorable que la mienne, eh ben, ils vont étendre ce tissu de réseau un petit peu plus large sur eux, leur propre réseau, et ainsi de suite par répercussion, un peu comme un virus en fait. Et du coup, le changement culturel se fait par divers pavés dans la mare qui sont jetés, ou si je reprends l'analogie avec les points d'acupuncture, c'est un peu pareil. Et puis, par propagation, en fait, ça finit par toucher quasiment tous les secteurs. Ça, d'un point de vue anthropologique ou même d'un point de vue biologique, ça fonctionne souvent comme ça, c'est de se dire que ça ne sert à rien d'envoyer une information très forte dans des endroits qui ne sont pas du tout prêts à la réceptionner. Il vaut mieux en fait fonctionner sur la logique un peu du bouche à oreille, mais sans transformation d'information quoi. Ça se répercute par du concret. Moi, si je fonctionne différemment, l'autre à côté, si jamais il joue le jeu, et ben tiens, ça marche aussi pour lui, c'est cool. Du coup, boum, il le met en place et ça se propage comme ça.
En fait, ce à quoi tu penses, donc cette structure, déjà, est-ce qu'elle est calquée sur les territoires actuels, c'est-à-dire qu'on partirait des communes?
Là, j'essaierai d'avoir, même si je ne suis pas moi-même anthropologue, mais j'essaierai d'appuyer le point de vue de l'anthropologie, il faut se calquer sur la logique d'un quartier d'habitat.
Ah, carrément, donc ça pourrait être plus petit que les communes.
Ça peut être plus petit qu'une commune.
D'accord.
Par exemple, pour Lyon, la logique de traiter par différents arrondissements fonctionne plutôt bien parce que l'échelle des différents arrondissements est suffisamment grande et en même temps pas trop pour que ça puisse vraiment être une logique de vie de quartier.
Et
Et d'ailleurs, on le
ça
voit.
passe directement de ce territoire au global, ou est-ce qu'il y a une sorte de pyramide? Aujourd'hui, on a les départements, les régions. Est-ce que...
Eh ben, ça serait pas une pyramide, mais par contre, ça serait des bulles dans des bulles. Donc, tu peux avoir la bulle de ton quartier, qui est dans la bulle de ton arrondissement, qui est dans la bulle de ta ville, qui est dans la bulle de ta région, qui est dans la bulle de ta zone française et qui est dans la bulle de la France.
Mais ça veut dire que au niveau des consultations, tu peux être consulté au niveau de la bulle de ton quartier, de ta région. Ça fait beaucoup de consultations, quoi. Comment, par exemple, la bulle de mon quartier. Ok, on fait remonter, on collecte l'information locale. Ensuite, cette information, elle est traitée par une autre bulle régionale qui va ensuite au. Tu vois, même si ce sont des
L'information.
bulles, ça ressemble à une pyramide pour moi.
Mais en fait, la seule. La vraie problématique d'une pyramide, c'est que il n'y a pas toute l'information qui est accessible par tout le monde n'importe quand. Il n'y a pas de porosité entre les étages. Il y a une déperdition, il y a une accaparation, il y a une complication de l'information qui fait que ça ne revient pas. Il n'y a pas d'échange non plus
Mais ça,
entre les étages.
c'est juste lié à la façon dont on récolte l'information, c'est-à-dire que elle est partielle parce qu'on ne consulte pas tout le monde. Là, dans ce dont tu parles, chaque citoyen peut venir participer à justement créer les sujets importants et donner leur point de vue et qu'il y a des synthèses qui sont faites.
Voilà, et dans l'idée, surtout, c'est Moi, en tant que Lyonnais habitant dans le 5e arrondissement, par exemple, tout ce qui concerne ma vie du quotidien, ça se concerne sur le 5e arrondissement. Je ne vais pas aller donner mon avis sur comment la vie du quotidien doit se faire dans le 7e
Oui, mais
arrondissement ou
sur
dans
ta
8e
région,
arrondissement.
par exemple, est-ce que tu vas donner ton avis sur ce qui se passe dans ta région ou ta nation?
Je peux potentiellement, si jamais j'ai envie de monter sur cette échelle-là, aller en effet rejoindre des ateliers où je vais pouvoir réfléchir sur des choses qui concernent la région, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas sur les mêmes types de questions. Ça sera vraiment sur des questions qui sont peut-être plus orientées déjà
Donc, on a été synthétisé déjà de toutes
environnementales,
les.
sur les industries, sur des choses comme ça. Voilà, qui ont déjà été récupérées de toutes les. Mais dans tous les cas, oui, je peux monter sur ce type de sujet-là si jamais je le souhaite.
Ok.
Comme le fait que je peux participer au board très global et éloigné, si jamais je souhaite participer à ce board très global et éloigné. Mais il faut que je m'en sente le schéma mental pour pouvoir rentrer sur des considérations qui sont comme ça.
Alors, même si j'ai le schéma mental, ça veut dire que certains vont aller s'exprimer à un niveau plus global. Et bon, moi, je vois hein, dans les groupes que je facilite, eh ben, c'est souvent un certain type de caractère qui va avoir envie de convaincre, d'aller proposer, d'aller. Est-ce que ces personnes-là sont forcément représentatives de tout le monde? Comment? Tu vois, j'essaye de voir. À quel point, en fin de compte, on va pas continuer à avoir des groupes de personnes qui réussissent à influencer le système, plutôt qu'avoir quelque chose qui soit vraiment représentatif. D'ailleurs, je me pose aussi la question de est-ce que la somme de toutes ces informations, de toutes nos problématiques personnelles et locales, est vraiment va vraiment être stratégique pour l'humanité, quoi, c'est-à-dire ou pour la nation. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Déjà, moi, je dirais, dès le moment où il y a un humain qui fait une proposition ou qui sort un grand discours, à ce moment-là déjà, en fait, et qui donne son point de vue propre, c'est déjà biaisé, dans le sens où il utilise son individualité. Pour la propager autour, pour que les autres gens se disent il est d'accord, et dans ce cas-là, on le suit. Et donc, dans ce cas-là, on commence à rentrer dans une position de pouvoir, et c'est problématique. Alors que si un humain n'est que le porte-parole de démarches qui ont été faites via de l'intelligence collective, et qu'il est là pour présenter de manière factuelle et appuyée de ce qui s'est passé des choses, et qu'il les soumet en termes de priorité par les retours factuels. Ensuite, les autres peuvent prendre ça, rebondir dessus, et par le même type de comportement, en fait, retraiter cette information, l'adapter à leur secteur et l'utiliser comme tel. Et l'un des trucs principaux aussi en intelligence collective et en facilitation, c'est justement de ne pas rentrer dans une démarche de débat. Alors que là, actuellement, dans notre culture française, surtout, on adore encore être dans une logique de débat. Le débat, c'est intéressant parce que c'est stimulant, ça fait de la dialectique, on se pose des questions, on rebondit, tout ça, c'est très bien. Mais quand il s'agit de vraiment faire société et déclencher des actions concrètes, il y a beaucoup plus d'intérêt à être dans la collaboration autour de ces sujets pour justement arriver à les comprendre, à en comprendre la complexité. Alors en faire une opportunité collective de détecter ensemble, ah tiens, là, avec tout ce qu'on a comme info, il faut qu'on fasse ça, qu'on mette ça, qu'on mette ça en place. Qui c'est qui a décidé ça? On n'en sait rien du tout parce qu'en fait, on a tous réfléchi ensemble autour de la table. Et puis en plus, vu qu'on est plein de points de vue différents et qu'on est tombé d'accord, c'est certainement le truc qu'il faut faire. Ok, bon, ben go, on consulte les autres quand même, on leur envoie, justement, vu qu'on a tout documenté. On envoie à tous les gens du quartier, de la région, quoi que ce soit, voir s'ils nous font des retours par rapport à ça. Vu qu'il y a tout qui est bien expliqué, documenté et que le fil d'Ariane est bien tissé. Et bien, si jamais ils nous suivent, enfin, si jamais ils ont bien suivi le fil d'Ariane, ils se rendent compte que. Et en plus, le truc qui est important, c'est la démarche d'intelligence collective, ça met en avant le travail d'un groupe. Et du coup, si c'est ça la décision, si c'est le travail d'un groupe, pourquoi remettre en question le travail d'un groupe? On peut remettre en question une individualité, mais alors remettre en question toute une génération d'un collectif, c'est beaucoup plus. Contre naturel, je dirais.
Bon, en fait, j'ai la sensation, parce que bon, moi, je me fais l'avocat du diable, ou même
Ouais,
pas
bien
parce
sûr.
que je pense que j'ai le diable en moi et que je me dis en fait, l'être humain, en fonction de quel est son but, hein, parce qu'aujourd'hui, l'argent, d'ailleurs, le prochain podcast sera sur cette thématique de l'argent, mais aujourd'hui, c'est devenu une fin en soi et on est prêt à pas mal de manipulations pour justement orienter tout ce qui se passe dans le collectif. Donc c'est très intéressant. Pour finir, j'aimerais bien savoir quels outils tu as parlé donc d'ateliers, d'interviews. Est-ce que ça va être épaulé par d'autres outils, cette structure?
Bah, y a besoin de beaucoup de choses, il y a besoin déjà donc de beaucoup de personnes avec une posture de facilitateur. Il y a besoin aussi de personnes qui puissent apporter les différentes expertises et intervenir avec ces différents groupes. Il y a
Pourquoi? Parce que
besoin.
dans les groupes, en fait, il va y avoir un exposé des problématiques ou de. C'est des experts qui vont donner des inputs. Je suis désolée du
Non.
mot anglais
Ouais, pas
scientifique
de
ou.
soucis. Non, c'est plus d'avoir des points de vue, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut traiter, par exemple, une problématique de gouvernance de quartier ou une problématique de collaboration entre des commerçants ou je sais pas, je te donne un exemple comme ça. Si jamais on n'a pas une personne qui est un sociologue ou un anthropologue, tu vois, qui lui peut arriver à dire juste, en fait, dire aux gens, là, si jamais vous avez du mal à tomber d'accord sur ça, 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 ou mettre ça en place, c'est peut-être parce que l'être humain fonctionne comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Et là, les gens, ils peuvent se poser la question avec cette information-là. C'est juste un apport d'information. Ah, ok, d'accord, donc on peut voir, ta, ta, ta. Donc, ce n'est pas comment dire, la logique d'expert ou sachant qui va dire comment les autres ils doivent faire, parce que dans tous les cas, si on fait autrement, ben, c'est dans le faux. C'est juste, je vous donne l'information. Comme ça, les questions que vous vous posez, vous pouvez avoir une réponse tout de suite. Et du coup, le fait de pouvoir se poser des questions et d'avoir des réponses tout de suite, ça permet d'avancer dans la réflexion de groupe et c'est ça qui permet de rentrer dans un flow et dans une intelligence collective. Ce qui bloque en général une réflexion de groupe, c'est quand justement on n'a pas la possibilité de répondre à une question, que les gens vont chacun de leur hypothèse et que du coup, eh ben, on se perd dans des débats. Là, on fait en sorte d'avoir l'information dans le groupe de réflexion, ce qui permet d'aller jusqu'à quelque chose de concret qu'on va pouvoir mettre en test et ainsi de suite. Donc, il y a besoin d'avoir cette facilitation. Lui aussi est là justement pour s'assurer que l'expert, ça ne soit pas un sachant qui apporte du descendant, mais qui soit vraiment au service. Donc, deux personnes au service. Une troisième personne au service qui serait la partie documentation, pour que justement on s'assure que tout ce qui a été échangé soit gardé de côté et puisse être remis dans ce commun. Ensuite, on a ces personnes qui vont pouvoir en sortir des protocoles pour qu'il puisse y avoir de plus en plus de bulles d'ateliers qui ouvrent à droite à gauche. Qui aille aussi, elle, dans le commun, et ainsi de suite. Donc, il y a une démarche pédagogique aussi à mettre en place. Après, pour toute cette information qui va dans le commun, on a potentiellement la chance d'avoir des outils numériques et des infrastructures numériques et architectures d'information à mettre en place pour qu'on puisse le traiter plus facilement que si jamais on le faisait encore avec du papier crayon, des gros classeurs et tout ça. Et puis après, quand on a toute cette infrastructure-là, il y a toute une démarche de gouvernance aussi, gouvernance qui serait une gouvernance projet pour le coup, où justement on peut aller récolter toutes ces informations et puis les traiter d'une certaine manière. Et après, donc voilà, il y a besoin d'avoir de l'architecture et une infrastructure d'information, une infrastructure numérique pour gérer tout ça. Il y a besoin d'avoir les personnes, il y a besoin d'avoir les expertises. Et il y a besoin que tout le monde se dise, quelque part, on est peut-être dans des bateaux, différents, mais dans tous les cas, est-ce qu'on est d'accord qu'on va dans la même direction?
Et pour ça, au niveau global, il n'y a pas des décisions qui sont prises au niveau global par un gouvernement central ou comme aujourd'hui? Parce que là, on a parlé beaucoup du local, donc ça monte, ça redescend, c'est-à-dire que l'information monte du terrain, remonte, elle est synthétisée. On a cette bibliothèque de processus, d'informations, de connaissances, et puis ça redescend, le local prend des décisions sur les préconisations de tout ce qui s'est passé au niveau
Ouais.
global. Mais est-ce que, si on garde un niveau national, est-ce qu'il y a encore des décisions qui sont prises au niveau global et par qui et qui les prend et comment on choisit qui prend ces décisions?
Alors, je te reprendrai l'exemple de la permaculture. Le but du jeu, c'est d'arriver à mettre en place une symbiose sur le jardin. Donc, si on imagine que le jardin, c'est la France. Il faut s'assurer d'arriver à y faire entrer en symbiose. Et une symbiose, ça fonctionne comment? C'est chaque élément du système naturel qui se comporte dans son intérêt propre, mais toujours en conscience de ce qui se passe autour. Et donc, par exemple, une plante qui a tendance à récupérer énormément d'eau dans la nature, pour que ça fonctionne en symbiose, elle va se retrouver à être très proche d'autres trucs qui ont besoin de récupérer de l'eau, mais qui eux n'arrivent pas à la récupérer. Et du coup, elle va pouvoir répartir cette eau chez les autres. Et si jamais les autres ne sont pas là autour, elle, elle a tendance à tout le temps pomper de l'eau, donc le côté égoïste. Et sans les plantes autour qui vont récupérer de l'eau, en fait, elle va se noyer avec elle-même et elle va mourir. Et donc, du coup, voilà, il y a cette espèce d'équilibre de symbiose qui se gère tout le temps d'une manière très localisée. Et le jardinier de permaculture, son rôle, c'est d'arriver à faire en sorte de structurer toutes ces petites localités pour qu'elles aillent bien les unes avec les autres, en connexion avec les autres localités autour. Et le meilleur, l'état final, en fait, recherché par la permaculture, c'est le moment où, en gros, le jardinier ne touche plus à rien. Et où du coup la symbiose est installée, on retrouve le fonctionnement par exemple d'une forêt primaire où il y a tout qui tourne tout seul. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de gouvernance globale, il n'y a pas de directive globale. En fait, il y a tout qui se passe, chacun dans son coin, mais interrelié avec les autres, et ça circule. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne dans la nature. Je suis idéaliste, certes, mais je suis persuadé que ça peut fonctionner aussi dans le système humain. Et que quand tout ce petit monde sera en action et en conscience de ce qui se passe à côté aussi, quand eux ils font des trucs en local, en fait la gouvernance se fera par synergie et par symbiose, quoi.
Mais ça veut dire que donc la cellule vraiment primordiale, c'est le local. Il y a ce niveau global. Alors là, on sait pas trop. Ça peut avoir différentes tailles, regrouper des cellules locales. Mais ça voudrait dire que on n'aurait plus besoin de nations, par exemple.
Exactement. Parce que si on considère, si on se voit en bulle au lieu de se voir en espace avec des murs qui sont des frontières, on peut considérer que, y a des bulles de localité géographique, parce qu'on est encore des êtres physiques, donc forcément, du coup, on est limité physiquement. Il y a des bulles de localité qui sont culturelles. Donc là où c'est complexe aussi, c'est que c'est peut-être rattaché à un territoire, mais ça peut être aussi rattaché juste à quelque chose qui est immatériel, comme par exemple des communautés en
Ouais.
ligne. Ça va être des communautés de culture qui vont échanger en ligne. Donc là, déjà, il n'y a plus de logique de nation ou quoi que ce soit, parce que on va être chacun dans plein de types de bulles différentes. Et donc, du coup, on peut se balader régulièrement de bulle en bulle et ainsi de suite. Et ce que je trouve intéressant dans cette logique de bulle dans des bulles, c'est que la planète Terre, elle est ronde et que du coup, c'est notre grosse bulle à tous. Et que si jamais on arrive à rentrer dans cette conscience-là, on se rendra juste compte qu'en effet, il n'y a pas de frontière logique maintenant. On est juste sur une planète. On ne peut tous pas partir de cette planète, sauf certains qui veulent essayer. Mais en attendant, on est tous sur cette planète. Et tout ce qu'on fait, c'est forcément lié à ce que les autres font, vu qu'on est tous dans la même bulle.
Ça, c'est évident, et pourtant on a du mal à en prendre conscience. Il y a quand même, je suis toujours avec mes risques, mais le risque que les buts locales, ok, donc ça c'est des territoires, voilà. Déjà, on va pas en traiter là, mais ça me fait penser, justement, j'avais des questions sur les frontières et comment tu passes d'un territoire à l'autre, et voilà quoi. Mais en plus, le risque, est-ce que c'est pas que les bulles virtuelles, par exemple, sur un point commun culturel, ou je sais pas ce que ça peut comment peuvent se créer ces bulles, dans le virtuel, elles pourraient devenir énormes si c'est au niveau global et mondial. Je sais pas, certains peuvent je sais pas, les artistes, je dis un truc qui n'est pas chargé politiquement, mais les artistes créent une bulle énorme. Est-ce que ça peut pas devenir un problème, voilà, qui commence à avoir une influence? D'ailleurs, j'arrive pas à voir totalement comment ils vont influencer le local, ces bulles-là, le local réel, le territoire, alors qu'ils sont ce sont des bulles dans le virtuel.
En fait, les bulles dans le virtuel, ça va être des bulles d'échange de connaissances, de ressources, d'inspiration, enfin de tout ce qui est de l'ordre de la pensée et de
Oui,
l'intellect,
donc on
quoi.
reste, c'est vraiment le local, la cellule de base. C'est le local territorial.
Ben voilà, alors là, dans ce cas-là, si je rejoins le point de vue anthropologique, biologique ou même philosophique, c'est même l'extra-local, en fait. C'est dans tous les cas le point de vue le point de vue, c'est la personne. Le seul truc duquel je peux pas me détacher, c'est mon propre corps. Donc forcément, ma localité, elle est là, elle est à cet endroit-là. Et souvent, après, tu as les architectes aussi qui disent que le point central de toute chose, c'est le foyer. Et donc, le foyer partagé et les interrelations qu'il y a entre le foyer, les autres foyers et le quartier autour. Et donc, forcément, c'est le point de départ pour tout le monde. Et après, on va tous piocher des idées, des fonctionnements, des inspirations dans d'autres bulles par les réseaux, à l'époque, s'envoyer des lettres ou par le voyage. Mais après, ce qui se passe, ça se passe dans l'espace ultra local dans lequel on est. Et donc tous les autres espaces, toutes les autres bulles sont des bulles de connaissances, des bulles d'inspiration, des bulles de réflexion, mais l'action, elle est liée à notre espace physique, quoi.
Ensuite, je sors du domaine démocratique, mais je me dis que ces bulles, c'est aussi des bulles économiques. Alors, tout dépend du système autour à nouveau. Mais donc, il y a l'histoire des moyens. Chaque bulle territoriale, comment elle va avoir, est-ce qu'elle va avoir les moyens de son autonomie pour se nourrir, se loger? Est-ce qu'il y a de la solidarité entre les bulles? Voilà. Puisqu'il n'y a pas de décision au global, comment cette répartition se fait?
Eh ben voilà, prenons l'exemple par exemple de l'alimentation. Lyon, c'est quasiment, je crois que c'était la deuxième ou troisième ville d'Europe qui a le plus de production locale tout autour. Et pour autant, on n'est pas du tout en train de manger que des produits locaux et de qualité sur Lyon. Quand on s'intéresse au sujet, on découvre qu'il y a énormément de démarches qui commencent à émerger, à se dire on va faire des paniers locaux, on va aller voir les producteurs, on va essayer de tisser une infrastructure pour faire redescendre les produits des producteurs locaux en ville, tout ça. Et en fait, des démarches comme ça, il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine sur Lyon. Souvent, quand on va leur poser la question, ils vont en connaître un ou deux autres qui font comme eux, mais par contre, ils ne vont pas tous se connaître. Donc déjà, de ce point de vue-là, on a une très grosse perte en termes de ressources, c'est-à-dire qu'ils vont tous mettre énormément d'efforts, d'énergie et donc d'argent dans la construction de leurs propres infrastructures, dans leur construction de leurs propres moyens de transport pour amener les produits. Il n'y a pas forcément de logique de mutualisation, de contact d'agriculteurs ou de tout ça. Et c'est pour ça que du coup, on se retrouve à être pas forcément fourni à 100% et à être autonome en termes d'alimentation. Sinon, une ville comme Lyon pourrait être totalement autonome par rapport à toute la production locale qu'il y a autour. Et c'est le même problème dans énormément dans la plupart des villes, en fait. Et donc, rien que sur le terme de l'alimentation, s'il y avait un vrai traitement qui partait du local et qui s'étendait justement sur toutes les infrastructures un peu plus largement, avec une vraie logique de collaboration et de mélanger les bons acteurs au bon endroit, au bon moment, ben on pourrait régler ce problème-là.
Ouais, il faudrait que je fasse un autre épisode là-dessus parce que sinon ça va être trop long, mais sur tu vois, la santé, les mises en commun des hôpitaux, des choses comme ça, il y a plein de questions qui se posent sur...
Ah, je te rejoins sur les sujets de la décentralisation, parce que ça, pour moi, c'est vraiment un sujet de la décentralisation. Il y a énormément de questions qui peuvent se poser. À l'aimé, je t'inviterai à trouver une personne qui bosse un peu dans tout ce qui est ces sujets-là, les réseaux décentralisés, parce que même si souvent les gens bossent dans la blockchain et c'est des sujets très numériques, les réflexions qu'il y a derrière autour de la décentralisation vont beaucoup plus largement explorer ces sujets-là.
Est-ce que tu as réfléchi sur, parce que apparemment tu as vraiment réfléchi sur ce sujet, est-ce que dans ta réflexion tu as pensé à l'évolution de ton système? Est-ce que tu as des moyens de faire entrer voilà, des alertes sur des endroits de tension dans ton propre système, c'est-à-dire les bulles, le global, le commun, le local, pour faire évoluer le système et évoluer en fonction de comment aussi évolue la société?
Eh ben, c'est bien pour la fin, ça fera une mise en abîme de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. La réflexion que je t'ai proposée là, ça part d'observation et ça part de beaucoup de rencontres et de petites études et de discussions locales. Donc forcément, c'est très imprégné de la localité française et de la culture d'ici à Lyon, même s'il y a eu pas mal d'échanges avec d'autres personnes dans d'autres villes. C'est mélangé avec de l'information globale, donc tout ce qui est grosses études, grosses tendances, ce qui peut se passer dans d'autres villes et compagnie. Et tout ça, c'est injecté dans un espèce de commun où là, il y a plusieurs personnes qui sont mises à y analyser et à voir un peu tout ce qu'on pouvait en faire. Et après, quand je te parle, par exemple, lancer des démarches d'atelier ou autre chose comme ça, c'est clair que tout ce système ne pourra prendre réalité que quand on aura fait suffisamment de choses en local. À chaque fois qu'on va faire des choses en local, forcément, ça va remettre en question ce système parce qu'il y aura des nouvelles informations, donc récupération du feedback, et ça va le restructurer, ça va faire évoluer un peu les protocoles, ça va tout faire évoluer.
Ça fait
C'est en constante
aussi
évolution.
partie de la tâche du facilitateur, ça, de voir les bugs dans le système ou comment le faire évoluer.
Ça fait partie de la posture facilitateur, mais aussi de la posture de la personne qui sera à la documentation et aussi de la posture des experts. C'est globalement un truc en fait qui est ultra nécessaire. C'est la logique de feedback en fait de tout temps récupérer et analyser, objectiver comment ça marche les choses, si ça marche bien, si ça marche pas bien et quel virage on peut prendre. C'est la logique du test and learn en fait. On teste, on apprend et après on prend un virage et ainsi de suite. Et du coup, forcément, le système en lui-même, là, réfléchi de manière globale, c'est pour arriver à lancer vraiment toute une démarche structurée locale. Avec ce feedback, ça va évoluer par rapport à ce qui se passe ici en local. Et le but, c'est qu'il y ait une appropriation qui se fasse par plein d'autres localités différentes. Allez, soyons rêveurs, en France, en Europe, dans le monde ou quoi que ce soit. Et le système, en fait, ne sera pas un système qui fonctionnera. En fait, ça va devenir... Ça devient des multisystèmes et d'ailleurs, par grosse, grosse humilité par rapport à tout ça, la réflexion que j'ai proposée là pendant ce podcast, c'est certainement une réflexion qui a déjà été poussée par 500 personnes de par le monde et qui testent en ce moment même des tonnes de choses au Brésil, au Nicaragua ou en Inde. Il y a des choses super qui se testent aussi. Et du coup, c'est autant d'informations en commun qui peuvent nourrir les systèmes des uns des autres. Et le but du jeu, c'est pas trouver un système global qui s'applique à toute la planète, mais c'est de proposer des multisystèmes qui vont se nourrir les uns les autres pour que ça puisse fonctionner dans chacune des localités et qu'au final, ça puisse créer un fonctionnement en symbiose. Donc, c'est vraiment un système symbiotique à la
Ouais,
fin.
faut
Voilà,
essayer,
pour l'utopie.
faut expérimenter.
Exactement, faut faire du test, faut faire du test et partager tout ce qu'on teste. C'est plus important le partage de connaissances, parce que ça se multiplie en fait. J'aime bien cette petite phrase de Idrissa Berkane.
C'est l'énorme limite de mon podcast, c'est que ce que tu viens de dire, j'en suis persuadée, en fait, c'est en testant et en faisant évoluer les choses qu'on peut trouver un système qui fonctionne pour nous. Donc de rester dans les mots et la réflexion et construire une utopie est en soi une utopie dans son sens péjoratif, c'est-à-dire je suis pas sûre que ça tienne la route. Est-ce que tu me permets quand même de pomper dans tout ce qu'on vient de se dire pour essayer de quand même construire mon utopie, même si je sais qu'il y a un biais énorme dedans, c'est que au bout du compte, il faut qu'on essaye plein de choses en
Ah, mais
conscience et en coopération.
je suis complètement partisan d'écrire des utopies dans le sens où ben, avec un ami, on a monté aussi des petits articles qu'on écrit qui sont des petites histoires, en fait, des essais sur des futurs souhaitables ou non. Et puis, il y a des écritures de Bright Mirror avec, par exemple, Ouzbek Erika. Et puis, il y a des tonnes de choses qui se passent juste dans le monde de l'idée, du concept et dans le monde intellectuel. Mais là, je finirai aussi avec le point de vue anthropologique. Si un jour Fanny écoute ce podcast, je lui fais un bisou.
Qui
Et
est
ben,
Fanny?
Fanny est l'amie anthropologue avec laquelle on réfléchit à tout
D'accord.
ça très souvent. Et en gros, d'un point de vue anthropologique, dans tous les cas, l'être humain est une espèce qui fonctionne en se racontant des histoires. Et c'est quand on raisonne sur des histoires que du coup, on a envie de faire en sorte que cette histoire devienne réelle, et c'est à ce moment-là où on rentre en action. Donc on a besoin d'écrire des belles histoires, des beaux paradis, des belles lignes de religion, si on veut, au final. C'est des nouvelles religions, quoi. Et en décrivant ces religions, ensuite, ça donne un cap. Et après, toutes les actions qu'on va faire, eh ben, du coup, elles vont dans la direction de ce cap. Par contre, en effet, si on fait qu'écrire, il ne se passe rien. Si on fait qu'agir la tête dans le
Ouais.
guidon, ben, il se passe n'importe quoi. Mais si par contre on agit en avançant ensemble vers un cap commun, là, c'est une belle aventure.
Ça me fait, j'ai envie d'interviewer quelqu'un qui est spécialiste justement du marxisme pour voir ça, c'est-à-dire une utopie, on pourrait dire que le marxisme, une utopie pensée et une application, une interprétation aussi qui peut être faite et comment ça s'est déroulé. Je pense que je vais faire cette interview, en tout cas je vais demander à la personne à qui je pense, parce que c'est, ça touche directement ce que tu viens de dire. On peut aussi dans la mise en matière de nos utopies, aller dans des sens qui peuvent être dramatiques. Donc bon, à suivre. Merci beaucoup Fabrice. J'ai voyagé là, je suis encore dans les bulles, donc je vais essayer de.
Cool.
Et merci d'avoir partagé bah, toutes ces réflexions que tu as menées, qui je pense vont bien
Avec
m'inspirer.
plaisir. Cool. Eh ben écoute, je laisse composer alors.
Merci.
Et impatient de pouvoir lire ça. J'aime bien lire des utopies.
Que dire à la fin de ce podcast? Déjà que c'est pas facile à suivre parce que je vais un peu dans tous les sens dans mes questions, je reviens parce qu'en fin de compte j'ai du mal à comprendre certains aspects et surtout j'ai l'impression que je mets pas de frontières, ce qui fait que je mélange un peu. Là, on était parti sur la démocratie participative et puis en fin de compte je mélange ça avec l'économie. C'est très dur pour moi parce que je vois des liens entre toutes ces choses et elles s'influencent les unes les autres. Donc j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à sortir de mon cadre, de ma façon de penser et de ma culture. C'est-à-dire il est très difficile de sortir de cette notion, par exemple, de territoire, la France. Vous voyez, la France. Et pourtant, toutes ces frontières ont tellement bougé dans l'histoire que... D'ailleurs, histoire, ça me fait penser à ce qu'il a dit sur se raconter des belles histoires. Et c'est fou parce que c'est vrai qu'on se raconte tous des histoires différentes qui créent nos cultures, qui créent nos religions, qui... Et il y a quelque chose qui me dérange profondément parce qu'en fin de compte, on n'a pas beaucoup de réponses sur ce monde. Et donc, on est obligé de se créer des histoires et de se raconter des histoires en sachant que c'est des histoires. Ça me gêne. Vraiment, ça me gêne. Mais bon, si la nature humaine est ainsi faite... D'ailleurs, je vous mettrai toutes les références dans l'article, notamment ce qu'a mentionné Fabrice sur le Bright Mirror, qui est une initiative lancée par Uzbek Erika. Il y a aussi l'Institut des Futurs Souhaitables, toutes ces organisations qui essayent de penser le futur. Donc, je suis contente d'avoir abordé avec Fabrice cette question d'intelligence collective et notamment comment elle peut être un bloc de construction d'une démocratie participative. Et en même temps, ça me fait penser à une série télé, là, tout de suite. Ça me fait penser à Sliders. Sliders, c'était une série où dans chaque épisode, c'était notre Terre, mais qui aurait évolué différemment. Donc, ça créait des systèmes différents. Par exemple, un épisode, c'était... les scientifiques étaient les rockstars du monde. Ils étaient admirés, adulés, suivis par de nombreux fans. Et en fait, en sortant de ce monde de Fabrice avec des bulles, je me dis que ce monde fait du facilitateur une rockstar. Alors bien qu'il faut qu'il garde sa posture hein, d'humilité, de retrait un peu et d'accompagnement, mais il a vraiment un rôle central, sachant que la prise de décision collective va beaucoup dépendre en fait de leur rôle. Alors je ne suis pas sûre d'avoir compris tous les aspects de ce que m'a décrit Fabrice, parce qu'il y a aussi une notion essentielle que je ne comprends pas, c'est que quand je regarde le monde, il y a tellement d'opinions. Donc dans cette partie des communs, dans cette partie d'expertise et de traitement de l'information, comment on va être objectif, comment on va sortir de ce monde d'opinion. Et à chaque fois, donc, je fais des interviews, alors que j'ai dénigré toute mon histoire, où j'ai interviewé plein de gens sur le bonheur, et puis ma conclusion quand j'ai quitté tout ça, c'est de me dire que cette question était creuse. Et je me rends compte en faisant ces interviews sur l'utopie que quand même, le changement culturel, et notamment, je pense à... est-ce que c'est le système qui crée l'égoïsme? Ou est-ce que c'est parce qu'on est foncièrement égoïste qu'on crée un système qui promeut l'égoïsme? Alors l'égoïsme, c'est peut-être un peu dur, mais l'individualisme, voilà. Voilà, donc je vais laisser tout ça mûrir, je vais continuer à regarder plein de conférences parce que j'aime beaucoup. Le podcast c'est chouette parce que ça me permet de poser des questions, ça permet des conversations, mais c'est vrai que les conférences c'est génial parce que ça donne une structure de la pensée de quelqu'un voilà, en une heure, deux heures sur un sujet et c'est assez génial. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai écouté, là c'était pas une conférence mais une interview de Yanis Varoufakis, où il fait référence, je pense, à quelque chose qui se rapproche du modèle suisse, où en fin de compte, les citoyens élisent des représentants, et quand il y a un sujet, alors pour différentes raisons, mais imaginons que les représentants élus n'aillent pas dans la direction que les citoyens veulent, ils peuvent, par Internet, enclencher un référendum sur certains sujets sur lesquels ils veulent réorienter ou voter. Et à ce moment-là, quand un seuil d'un certain nombre de citoyens est dépassé, on enclenche un référendum. Ce qui me fait aussi rebondir sur des propositions qui sont faites actuellement sur le fait de ne pas avoir des référendums oui-non, mais des référendums à choix multiples pour donner plus de profondeur à nos réponses. Voilà, je vous mettrai tout ça en lien. Parce que là, je pars dans tous les sens. Dans tous les sens, d'ailleurs, ce podcast, si quelqu'un peut me sauver de ce truc dans lequel je me suis lancée et qui me dépasse complètement, puisqu'on l'a vu dans ce podcast, ou on l'a écouté d'ailleurs, je pense qu'il faut tester des choses, qu'en fin de compte, ça va grandir organiquement les nouveaux systèmes, et pour ça il faut un changement culturel profond, je pense. Donc je continue à réfléchir parce qu'il y a une telle somme d'informations partout que il faut que j'arrive à faire le tri, et ce podcast m'aide à faire ce tri, même si c'est toujours un point de vue d'un humain sur Terre. D'essayer de développer son point de vue, je trouve ça tellement compliqué. Un jour, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas discriminante et je me rends compte à quel point c'était beaucoup plus facile de faire des interviews et de ne pas avoir d'opinion. C'est une opinion personnelle, ça forme notre opinion personnelle, mais de pas me positionner, c'était tellement plus simple. Mais maintenant que je suis lancée, je continue. Hein. Donc on se retrouve... je pense dans 10 jours, avec une interview d'Étienne Ayem, et nous allons parler d'argent. Sujet chaud, mais sujet, j'ai l'impression, central dans cette civilisation. L'argent, c'est clé. Donc, on se retrouve très bientôt pour cette nouvelle interview. Très belle semaine à toutes et à tous.